Chapitre 12. Les trois réchauds avaient tous la même morphologie. Une taille imposante, un cou épais, une carrure large et des masses à la place des poings. Leur regard glacé était aussi impersonnel qu'un œil de caméra. On aurait pu croire qu'une femme ne leur avait pas donné le jour, qu'ils étaient sur terre pour incarner la violence, la barbarie, la cruauté et le meurtre. Ils escortèrent Tom Buckle jusqu'à la suite où il avait déposé ses affaires, sans jamais répondre aux questions qu'il leur posait, se contentant de lui donner des ordres. Le menacer aurait été inutile. Chacun de leurs gestes, de leurs regards, était une menace de mort implicite. Il trouva sur le lit des vêtements déposés là à son intention. Un caleçon long, une chemise en flanelle, un pantalon et un blouson Gore-Tex en thermolite, deux paires de chaussettes et des gants souples. Une paire de bottes montait la garde au pied du lit. « Déshabillez-vous entièrement !» lui ordonna l'un des hommes. « Ensuite, vous enfilerez cette tenue. » Tom comprit qu'il serait vain d'en appeler à l'empathie de ces êtres qui n'avaient plus rien d'humain en dehors de leur apparence. Si leurs traits étaient différents, tous affichaient la même expression neutre, dépourvue d'émotion. Le scénario de Wainwright Hollister n'avait rien d'une fiction. Tom Buckle n'était plus que le héros sacrifié d'un polar sombre destiné à illustrer la futilité de toute notion d'espoir. Il était Edmond O'Brien dans « Mort à l'arrivée », Robert Mitchum dans « La griffe du passé ». Les trois hommes le regardèrent se déshabiller en silence. Comment aurait-il pu se rebeller? Hollister le lui avait bien précisé, il était en présence de machines à tuer. 26 ans durant, il avait mené une existence insouciante qui l'avait conduit tout naturellement à son métier de réalisateur. Jusqu'à ce jour, il avait échappé à la terreur. Ce n'était pas seulement ces créatures ou Hollister qui le terrifiaient, mais la prise de conscience brutale qu'un gouffre pouvait s'ouvrir à tout instant dans son psychisme, une folie sombre à laquelle il ne pourrait pas échapper. Tout en enfilant la combinaison, il vit défiler dans sa tête les images vibrantes du suicide de Mai Mai, avec un tel réalisme que cette chambre aurait tout aussi bien pu être une salle de cinéma plongée dans l'obscurité. Le visage délicat de la jeune femme, son corps magnifique de déesse échappé d'un panthéon inconnu, se détachait en noir et blanc sous ses yeux, à la façon d'un film des années 1930. Seul le foulard de soie et l'éclair échappé du canon dessinaient des taches de couleur, tandis qu'elle s'effondrait avec grâce sur la terrasse enneigée sous le regard indifférent de Hollister. Il faisait chaud dans la chambre, mais Tom avait aussi froid que s'il s'était trouvé emporté par la tempête de neige qui faisait rage de l'autre côté des vitres. Son cœur battait fort sous l'effet de la peur, mais aussi d'une rage froide dont il était le premier effrayé. Il n'avait pourtant jamais eu un tempérament coléreux et craignait que cette fureur inconnue mette en péril sa maigre chance de survie. Les bottes aux pieds, la tête emmitouflée dans la capuche de la combinaison, il suivit les trois hommes jusqu'à l'immense garage où Hollister entreposait sa collection de véhicules de luxe. Une Lamborghini Huracan, une Rolls-Royce Phantom, une Bugatti Chiron, un blindé Gurkha du constructeur Teradyne, une vingtaine d'autres encore, exposés comme dans un showroom automobile, des spots braqués sur les jantes. Ils rejoignirent un Velociraptor 6x6 Hennessey, un énorme véhicule inspiré du Ford F-150 Raptor à 6 roues, uniquement disponible sur commande, doté de nombreuses options. L'un des réchauds prit place derrière le volant, pendant que ses deux compagnons s'installaient de part et d'autre de leurs prisonniers sur la banquette arrière. Tandis que le lourd véhicule s'enfonçait dans la grisaille neigeuse de cette fin d'après-midi, le géant assis à la droite de Tom lui récita les règles de la partie de chasse annoncée. Le gibier, auquel était accordée une avance de 2 heures, pouvait s'éloigner à pied dans n'importe quelle direction, à condition de ne pas approcher du ranch. De toute façon, sa présence serait signalée par les sondes disposées tout autour de la maison, et le personnel, équipé de pistolets mitrailleurs Uzi, n'hésiterait pas à l'abattre à vue. « T'es modifié !» murmura Tom, qui peinait toujours à accepter la réalité. Le réchaud poursuivit ses explications, ses traits aussi froids qu'une dalle de granit dans un cimetière, s'adressant au prisonnier à la troisième personne. La proie disposera d'un Glock de calibre 9 mm disposant d'un chargeur de 10 balles. Il tira de sa poche un pistolet désarmé et en expliqua brièvement le maniement à Tom. Ce dernier possédait bien une arme à feu, mais c'est tout juste s'il s'en servait une fois par an. Le reste du temps, elle sommeillait dans un tiroir de sa table de nuit et il ne se faisait guère d'illusions sur ses talents de tireur. Le Reichot lui tendit le Glock. Le chargeur et les munitions seront fournis à la proie au début de la chasse, avec 6 barres énergétiques et une lampe torche tactique. J'aurai besoin d'une carte et d'une boussole, déclara Tom, sans que ses compagnons réagissent. Les bourrasques de neige continuaient d'obscurcir la lumière du jour en déposant sur le paysage un épais manteau blanc.
Hollister m'a pourtant dit qu'il m'accorderait ma chance, poursuivit Tom.
On aurait pu croire que les Reichots ne l'entendaient même pas.
Je ne vois pas en quoi la situation est équitable, insista le cinéaste.
Il se tut, gêné de s'entendre geindre à la façon d'un gamin dorloté. Le vélociraptor poursuivait sa route au milieu de la tempête alors que la nuit commençait à tomber, les flocons tels des insectes de nuit dans le faisceau des phares. Le lourd véhicule avait quitté la route reliant la résidence à la piste d'atterrissage pour s'engager sur un chemin de terre que le manteau neigeux rendait quasiment invisible. Au terme d'un bon quart d'heure de route, le 6x6 s'arrêta et les deux hommes qui encadraient Tom en descendirent. Voyant qu'il hésitait à les imiter, l'un d'eux lui lança un « tout de suite » menaçant qui l'obligea à se décider.